heureux de l'accueillir en deux joutes de golf. Lawrence Cannon est avec moi. Bonjour, Lawrence.
Bonjour, Rock.
Comment va le golf?
Ben, il fait froid dehors.
Il fait froid.
Hein? C'est pas des conditions idéales pour le golf.
Donc,
mais,
c'est l'argument pour dire que tu ne voyages
mais
pas.
Mais ceux qui, comme toi et moi, sont vraiment, vraiment des adeptes,
oui.
On y va quand même, au-delà des intempéries.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Il y en a qui jouent au golf, il y a de l'eau, mais ils jouent leur balle justement dans l'eau.
Oui, on a vu une vidéo.
On a vu la vidéo de ça, oui.
Lawrence, on va parler d'élections européennes aujourd'hui.
Oui, ben au fait, Rock, bientôt, là, entre le 23 et le 26 mai, en France, c'est le 26 mai, il y a des élections européennes, c'est-à-dire... les 28 membres de l'Union européenne, j'inclus évidemment les Britanniques parce qu'ils ont accepté, même si le Brexit devait se passer, ils ont accepté la proposition de l'Union européenne de tenir aussi des élections. Donc, c'est tout près de 751 députés qui seront élus au Parlement européen entre le 23 et le 26, comme je disais. Le Parlement doit commencer à siéger la première fois le 2 juillet, c'est-à-dire dans quelques mois suivant, évidemment, cette élection. Et ça sera la 9e élection européenne depuis le début du vote obligatoire sur le suffrage universel direct en 1979. Il faut dire aussi que dans certains États, il y a l'application d'un vote proportionnel. Parce qu'il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de partis politiques. Mais disons que ces élections ici se déroulent peut-être dans un contexte qui est plutôt inédit, parce que tu te rappelleras, durant le dernier mandat de 2014 à 2019, là, celle qui se termine maintenant, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont déroulés en Europe. Pensons, et toi et moi, on en a parlé beaucoup, c'est cette question de Brexit en 2016, l'arrivée ou la reconduction au pouvoir dans plusieurs pays de gouvernements eurosceptiques et populistes. Pensons en Hongrie avec Orban, la Pologne en 2015, l'Autriche en 2017, l'Italie tout récemment. Et puis en 2015, on a vu l'accord de Paris, qui était quand même la grande messe sur les dérèglements climatiques. Donc l'élection de 2019... ce ne sera pas tout à fait la même chose, parce que les circonstances que je viens d'énumérer font en sorte que l'électorat va probablement basculer d'un autre côté. Et les sondages sont quand même assez révélateurs là-dessus, dans la mesure où, antérieurement, comme tu le sais, c'était les deux grandes formations socialistes, socialistes, la droite ou la gauche, là, résumons ça comme ça, qui, à eux seuls, disposaient d'à peu près 54 % des sièges. Bonhomme Allan et les alliances, donc, pour nommer le nouveau président de la Commission européenne et pour gérer tous les comités, bien, on se trouvait généralement à regarder ces deux formations politiques et les alliances. Mais là, les choses ont changé parce que, avec la montée des populistes et des partis populistes, et europhobes surtout, au Royaume-Uni, comme en France, comme en Italie, les candidats qui sont eurosceptiques sont en tête ou à égalité avec les partis traditionnels. Donc, les partis traditionnels ont beaucoup à s'inquiéter, si tu veux. Les dernières projections de sièges, les deux grands partis, les conservateurs, disons, et les social-démocrates, là, droite-gauche, devraient perdre chacun 37 sièges. Et selon les plus récents sondages, là, les eurosceptiques pourraient obtenir à peu près 173 sièges de plus.
Mais eurosceptiques, ça voudrait dire qu'ils s'en iraient siéger dans une enceinte dans laquelle ils ne croient pas.
Absolument d'accord.
Un peu comme le Bloc québécois à Ottawa.
Exact. Et puis, tu sais, juste pour faire le lien, Rock, dimanche dernier, je regardais un sondage qui a paru dans les quotidiens anglais. Et tu le sais, Mme May travaille très fort pour sortir la Grande-Bretagne, ou c'est-à-dire, oui, la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et l'europhobe Nigel Farage, qui, pendant des années, a siégé là-bas, a son propre parti qui s'appelle le Brexit, et il devance toutes les formations politiques avec un score de 34 %. Et les conservateurs sont loin derrière pour ce vote-là. Alors, les travaillistes, les libéraux, démocrates, etc., tout le monde sont loin derrière. Alors, quand tu dis qu'il y a une montée des europhobes, des eurosceptiques, là, c'est absolument incroyable de ce côté-là. En Allemagne, par contre, ça, c'est un autre élément, parce que quand on parle de populisme, droite-gauche, ça existe. Hein? Ça existe en France, ça existe aussi en Allemagne. Et puis, cette fois en Allemagne, ce qui arrive, c'est qu'il y a une poussée historique des Verts. Les Verts sont crédités d'à peu près 20 % des voix, deux fois plus que ce qu'ils ont obtenu à l'élection de 2014. Alors, quand on regarde la composition, là, des compromis, des alliances qui devront se faire, c'est plus à deux partis, mais ce sera prochainement à quatre partis.
Incluant le Parti vert.
Incluant le Parti vert.
Ce qui nous rappelle l'île du Prince-Édouard.
Ce qui rappelle l'île du Prince-Édouard, ce qui rappelle la montée des Verts à travers le pays depuis les dernières années.
Fait que c'est pas juste canadien, cette tendance-là.
Oui,
c'est très intéressant.
Puis parlons budget.
Budget?
Oui, oui.
C'est mais avant, responsabilité du Parlement européen, est-ce que c'est comme notre gouvernement fédéral en termes de la défense?
Pas vraiment, Rock. Pas vraiment. Sans aller dans les nuages. Sans aller dans les nuances, je vais te donner un exemple parfait. L'accord de libre-échange qui a été signé entre le Canada et l'Europe, c'est les autorités européennes qui ont la responsabilité de négocier des accords de libre-échange. Donc, quand moi, comme ancien ambassadeur et les autres qui étaient présents, devait faire des représentations, on ne le faisait pas auprès de des gouvernements respectifs, quoique c'était important, mais la prise de décision, là où moi je suis allé à plusieurs reprises, c'est à Bruxelles rencontrer les députés, parce que c'est là que la décision se prend finalement.
Comprends. Parfait. Budget.
Budget. Ben, sais-tu, en 2020, le budget du Parlement en Europe devrait passer la barre des 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Ça veut dire 3 284 millions de dollars canadiens. C'est pas peu dire. Et pourquoi? Ben, rappelons-nous qu'ils ont un siège officiel à Strasbourg, ils ont un bâtiment principal à Bruxelles où siège l'Assemblée et les différents comités, puis finalement un secrétariat qui est à Luxembourg. À Strasbourg, les députés y vont en début de semaine, puis après ça, ils se déménagent, puis ils s'en vont à Bruxelles.
Okay.
Tout ça, ça se fait dans l'espace, évidemment, de la séance où ils siègent. Mais on comprend que ça coûte énormément cher. Juste pour te donner une idée, déménager coûte 114 millions d'euros entre Strasbourg et Bruxelles à chaque année. Juste un train nolisé, c'est 3,6 millions d'euros. Et puis, ça prend des camions pour transporter les dossiers? 395 000 $ canadiens pour transporter les dossiers pour d'aller de A à B. Et tout ça pour te dire que, là aussi, il y a 24 langues officielles. La traduction d'une seule page, ça, je voyais ça ce matin dans les nouvelles qui ont paru dans Le Monde, la traduction d'une seule page coûte 220 $ canadiens et une heure d'interprétation coûte entre 408 $ et 471 $. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont visité le Parlement à Bruxelles, tu vois toutes ces cubicules là où il y a un paquet de traducteurs. Alors, inutile de vous dire que ça coûte très cher.
À faire fonctionner notre Parlement européen.
Oui. Et puis un député, ben lui,
ouais.
Parce que je t'entendais ce matin parler de cette question-là.
Le salaire des élus à Québec.
Salaire des élus, en dollars canadiens, le montant du salaire mensuel annualisé, c'est 123 000 $ avant impôt.
123 000 canadiens?
Oui, 123 000. Puis pour chaque jour de présence aux réunions des organes du Parlement, comité, que sais-je, là, on reçoit 483 $ canadiens.
Pour chaque jour de séance?
Pour chaque jour de séance qui s'ajoute aux 123.
Ouais.
Et puis, on a tout près de 4 500 € par mois pour les frais. Puis ça, les frais, ben, ça couvre les frais de bureau, de communication, des équipements, l'ordinateur, etc.
OK.
Puis, finalement, pour le transport et le voyage, Rock, pour couvrir ces frais de transport, chaque député bénéficie également d'un remboursement de ses trajets. Et a une allocation d'à peu près 440 euros, c'est plafonné, pour faire ses visites outre-mer ou à l'extérieur de son pays à lui.
440 par année? 440 euros, c'est pas beaucoup, ça.
Non, pardon, 4 400, excuse-moi. 4 400 euros.
Par année.
Par année.
Bon.
Ouais.
Ben, c'est pas pire, ça.
C'est pas pire, hein?
Bon, ils n'ont jamais eu ça à Québec? T'as pas eu ça à Québec?
Non, moi, j'ai... Non, moi, j'ai pas
temps,
eu ça.
Là.
Non, avant-guerre, non.
Mais c'est intéressant de faire la comparaison, parce
oui.
que, tu vois, à Québec, commission parlementaire, t'es pas payé. Je prends quelqu'un qui est toujours en commission, là, présentement, la commission sur la laïcité.
Oui.
Hélène David est là, 6 jours de temps. Elle n'a pas une scène noire de plus, puis elle est porte-parole dans un dossier important, puis elle gagne 95 000 par année.
Oui, alors qu'ici, on donne une indemnité forfaitaire de temps par séance. Là. Alors,
ici, est en Europe. Là.
En Europe, oui. Ouais,
voilà.
Ouais, c'est ça.
Très intéressant. Merci beaucoup, Lawrence.
Merci, Rock, et joyeux anniversaire.
Ben, merci beaucoup. Merci, ça a fini
bientôt.
Continue
de grandir en âge et... Ben non, grandir, excuse, c'est un gros mot. À t'émanciper en âge et en sagesse.
En sagesse, oui.
Ouais.
Ben écoute, je me fie sur toi pour la sagesse. Merci,
salut,
Lawrence.
Bye.